Donc on va accueillir Clément Renaud, qui est chercheur, enseignant et spécialiste des liens entre Chine et fabrication technologique. Et il va nous présenter Biographie d'un panneau solaire.
Alors, bonjour. Donc, tac, je vais faire juste... Ça va, moi ? Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite conférence qui s'appelle « Biographie d'un panneau solaire ». Et donc, qui commence... donc, je ne suis pas du tout spécialiste de l'énergie solaire, mais l'idée commence avec l'installation d'un panneau solaire. Attends, parce que... Excusez-moi. Avec un panneau solaire que j'ai acheté récemment et que j'ai installé, et qui a commencé, et où j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais en fait... comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Et puis, donc moi, personnellement, j'ai passé environ une dizaine, quinzaine d'années en Chine, et j'ai dit, je connais bien le tissu industriel là-bas, donc j'ai commencé à m'intéresser à un peu l'origine de ce panneau, d'où il venait, comment il avait été fabriqué. Donc c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. D'abord, je me suis demandé comment c'était fait, puisque c'est plutôt l'aspect fabrication qui m'intéressait. Je ne vais pas rentrer dans vraiment les détails, mais... L'idée, ça marche un peu comme les composants informatiques. C'est une cellule photoélectrique. Donc, on prend du sable, on le purifie jusqu'à avoir du silicone. Ensuite, on fait un boudin avec. On coupe une petite tranche, une toute petite tranche qui doit faire à peu près 2 cheveux d'épaisseur, qui va être la cellule en fait. Dessus, disons qu'on met du phosphore pour permettre à l'électron de monter quand il y a un photon qui arrive. Bon, et ensuite, on l'emballe, on fait un sandwich avec du plastique, toutes sortes de choses pour le protéger des intempéries. On le met dans un cadre en aluminium en général, ou on le colle sur un truc, et après on le met dans un container, on l'envoie. En tout cas, c'est souvent comment ça se passe. Et donc, l'idée, c'était de comprendre déjà un peu cette fabrication. Bon, je ne vous explique pas le schéma, mais... Puis après, je me suis demandé mais d'où ça venait, en fait, historiquement. Donc c'est vrai que je ne savais pas, mais c'était un... à la base une technologie spatiale qui avait été inventée pour justement permettre aux satellites d'être alimentés. Et notamment, bon, là j'ai mis une photo d'un satellite chinois, mais je pense que c'était plutôt un satellite soviétique ou américain à l'époque. c'était pour rester dans le thème. Et puis surtout, moi la question qui m'intéressait plus et à laquelle je voulais arriver, mais avant je souhaitais quand même comprendre un peu le cadre général, c'était d'où venait ce panneau, quoi, où il était fait. Et donc aujourd'hui, ben, c'est sûr que quand on regarde l'industrie, on peut constater ici, vous voyez, que sur ce schéma tout simple, que l'immense majorité de l'industrie est située en Chine. Donc que ce soit pour le polysilicone, c'est-à-dire le boudin de silicone qu'on a fait, mais aussi ben, la fabrication des cellules et les panneaux solaires assemblés, bien sûr, sous toutes leurs formes. Donc voilà. Et puis moi, comme je suis... plutôt aujourd'hui historien des technologies et de la sociologie des techniques, je me suis demandé comment était née cette industrie, pourquoi elle était en Chine. C'est pas vraiment un hasard, mais l'idée était de comprendre comment ça s'était passé, comment ça s'était déroulé. Un des tournants en regardant de manière historique, c'est que dans les années 2000, l'Allemagne a commencé à vouloir subventionner la production d'énergie électrique solaire, photovoltaïque. Avec une loi allemande qui était destinée à l'Allemagne, hein. Et donc en donnant un prix très fort pour un kilowatt d'énergie à ceux qui étaient capables de le produire. Et l'Allemagne à l'époque avait, un peu toujours aujourd'hui, il n'y avait pas de capacité de produire des panneaux solaires. En fait, très peu de gens savaient le faire. Il y avait une partie en Chine, mais encore très peu. Et donc cette loi arrive, et bien sûr le marché allemand est quand même significatif, surtout à l'époque. Et dans le même temps, en Chine, donc là, je vous ai mis une photo d'une personne parce que ça permet d'un peu de mettre des visages, mais Shou Zhengrong, c'est donc un monsieur au milieu qui était doctorant à Sydney, dans le laboratoire donc de Martin Green, qui est un des fondateurs de la théorie de photovoltaïque, on va dire, appliquée à l'industrie. Et donc, il rentrait de son doctorat là-bas et qui a essayé de chercher un endroit pour s'installer en Chine pour monter une usine de panneaux solaires à l'époque. Donc il a été voir à Pékin, ils l'ont refoulé, à Shanghai, etc. Et puis finalement il s'est installé dans la ville de Wuxi, qui est une ville à côté de Shanghai. Et ce qui est assez intéressant en tout cas d'un point de vue urbain, c'est que c'est vraiment la municipalité qui a décidé d'investir, qui a dit ok, on va vous donner les lieux, on va vous laisser faire ce projet, c'est assez innovant, nous ça nous plaît, ça rentre dans nos trucs de zone de développement technologique, etc. Et donc, rapidement, en fait, il a créé une ligne de production qui était en fait destinée à adresser ce marché allemand, qui, ou en tout cas des clients en Allemagne, qui avaient besoin de panneaux solaires. Et vous voyez, donc, j'ai mis un petit historique, mais en l'espace de 5 ans, ils ont été listés à New York, donc ils sont entrés en bourse. Donc c'était un succès fulgurant en quelques années, et c'est devenu un succès gigantesque. Donc là, c'est juste une entreprise qui s'appelait SunTech, qui n'existe plus. Mais il y a énormément d'entreprises en fait, qui ont suivi un parcours un peu similaire, en voyant l'enrichissement potentiel qui était possible grâce aux panneaux solaires. Bon, bien sûr, ça n'a pas été sans accident. Rapidement, il y avait des énormes pollutions industrielles qui ont commencé à se décréter. Donc ça, c'est l'exemple de Wuxi. Ici, je donne l'exemple juste d'une ville et d'un seul endroit avec une seule entreprise et une seule personne. Mais vous pouvez imaginer qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait beaucoup même. Il y en avait énormément. On va voir un peu par la suite. Mais donc, à Wuxi, rapidement. Donc ça, c'est la ville de Wuxi qui est entourée d'un lac, qui est magnifique, mais qui a été complètement envahi par les algues en 2007, donc juste après le début de cette production de panneaux solaires qui a démarré dans cette ville. Et donc il y a eu, je pense, 5 ou 6 millions de personnes qui ont été privées d'eau potable pendant tout un moment, en tout cas. Et donc ça a été tout un changement aussi dans la perception du gouvernement, qui voyait qu'à la fois il y avait quelque chose pour s'enrichir énormément, que beaucoup de compagnies arrivaient à faire des choses incroyables économiquement. D'un autre côté, c'était pas encore vraiment considéré comme quelque chose de très intéressant et de très innovant, parce qu'il n'y avait pas du tout le marché qui est aujourd'hui. Et en même temps, là, il y avait quelque chose qui était très complexe, parce que cette chose qui était très porteuse, en même temps, était très polluante. Et donc, ils ont essayé d'en faire quelque chose, et en fait, la pirouette a consisté à créer ce concept de civilisation écologique, qui est rentré dans la constitution chinoise cette année-là, et qui a été un peu le tremplin de toute la politique chinoise industrielle qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est encore un des piliers dans la constitution chinoise, qui est le devenir de la Chine, c'est devenir une civilisation écologique. Et en fait, donc, toute cette période, de 2005 à 2013, a été vraiment un boom économique énorme. Donc, bon, je vais aller vite, mais en gros, vous avez des centaines de villes en Chine qui ont commencé à ouvrir des zones industrielles pour produire des panneaux solaires. Jusqu'en 2008, ça a été un carton phénoménal. Il y avait des entrées en bourse tous les 6 mois. Donc énormément d'entreprises, qui était un énorme succès. Donc tout le monde voulait faire ça. C'était un secteur très, très, très porteur. Vous voyez, et j'ai mis... En 2008, il y a eu le crash de Lehman Brothers, etc. Donc on a un peu été... l'Allemagne, notamment, a coupé toutes les subsides. L'Espagne, tout le monde a coupé les subventions pour le solaire à cette période. Donc c'est le gouvernement chinois qui avait un énorme package d'argent pour le stimuler de l'économie qui a compensé, avec une loi qui s'appelait Golden Sun Program, qui permettait de financer en gros la pose de panneaux solaires et l'achat de panneaux solaires pour les collectivités, pour tout un tas d'organisations, les personnes, etc., les industries. Et rapidement, ça a permis, ça a produit en fait une consolidation de l'industrie. Il y a plein de boîtes qui ont fermé, il y a eu des géants. Donc ici, j'ai mis Yingli Solar, qui est aujourd'hui aussi, je pense, qui est encore la première firme de production, j'imagine, de panneaux solaires dans le monde. Vous voyez, en 2014, qui était déjà sponsor de la Coupe du Monde. Et si vous regardez sur Wikipédia, il y a 4 lignes, je pense, en tout cas, sur cette entreprise, donc, qui est un géant, un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde. Mais la question, en fait, vraiment la question fondamentale que l'économie chinoise a fait face, et ce n'est pas la première fois qu'une question se posait de ce type, c'est qu'en fait, il y avait une énorme surcapacité de production. C'est-à-dire que tout le monde était en train de produire des panneaux solaires, mais il n'y avait finalement aucune demande. Très peu de demandes en comparaison de ce qui était produit. Et ce qui arrivait dans d'autres industries en Chine, mais ce qui était en fait une des conséquences. Et donc vous voyez, selon les estimations, ça c'est une estimation de l'OCDE, entre 2008 et 2023, il y avait seulement même un quart des usines qui tournaient. Donc c'est-à-dire potentiellement, il y avait encore on aurait pu produire 3 fois plus pendant cette période de panneaux solaires. Et à la fois, il y avait déjà beaucoup trop de panneaux solaires qui avaient du mal à être exportés. Et donc, il y a eu toutes sortes de recherches pour comment on peut écouler ces panneaux solaires. Quoi. Donc aujourd'hui, juste pour un mot sur le côté économique, aujourd'hui, il y a une grosse restructuration du secteur. En Chine, si vous voulez, il y a peu d'acteurs. C'est un peu comme l'OPEC. Il y a quelques grands leaders qui ont fait un consortium et qui rachètent toutes les boîtes pour restructurer, parce qu'il y a beaucoup trop de panneaux solaires qui sont produits au quotidien, et il y a beaucoup trop de capacités de production. Et donc, ça donne des paysages comme on a vu avant, parce qu'il faut bien les mettre quelque part, ces panneaux solaires. Et puis, notamment, alors il y a eu des tentatives dans l'agrivoltaïque qui ont été énormes. Pékin a fait toute une dynamique autour de l'agrivoltaïque. Donc, et finalement, ce qui s'est produit, c'est que énormément de panneaux ont été installés sur les terres agricoles, puisqu'en fait, c'était super rentable. Les panneaux ne valaient rien, ils étaient subventionnés. Et en fait, ça a ajouté à l'agriculture. Et donc, ça a commencé à remplacer les terres agricoles, ont été remplacées par des panneaux photovoltaïques. Et l'agriculture, du coup, prenait un coup. Donc, voyant cela, et puis les paysans se retrouvaient expropriés. Enfin, il y avait tout un problème qui était lié à la terre, de disponibilité de la terre pour poser des panneaux. Et donc, vous voyez, en 2017, c'était le boom. Il y en avait partout, des énormes champs photovoltaïques, donc qui étaient agrivoltaïques. Donc, c'est-à-dire, il y a une culture agricole et dessus un panneau solaire, quoi, un peu comme on voit ici. Et donc, bien sûr, les ingénieurs, assez rapidement, ils ont dit, on va faire des méga parcs. On va faire ça sur des régions entières. Donc, c'est ce qui s'est produit. Et finalement, en 2023, ça a été interdit. Ce qui a été interdit, c'est de faire de l'agrivoltaïque sur des terres agricoles qui étaient déjà cultivées. Donc voilà, mais par contre, ce qui est toujours possible, et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous avez dû voir déjà des images à la télé, etc., c'est des immenses champs solaires qui utilisent cette surcapacité industrielle et tous les panneaux solaires qui sont produits pour produire cette énergie et pour les poser quelque part, quoi. Donc ici, c'est dans le désert du Qinghai, qui est entre le Tibet et le Xinjiang, si vous voulez, dans l'ouest de la Chine. Et ce que c'est un article du New York Times. Ce que vous voyez ici, là, c'est Manhattan, pour vous donner l'échelle. Donc, c'est gigantesque. Ça fait, c'est-à-dire que c'est plus grand que la ville de Paris, je pense, à peu de choses près. Donc, c'est des dimensions gigantesques, puisqu'il y a toute cette production de panneaux qui est disponible. Et toute cette industrie qui est... Et donc, pour le gouvernement, pour les municipalités, pour tout le monde, en fait, pour les industriels, pour l'économie locale, c'est le dilemme entre fermer cette industrie ou utiliser ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, c'est toute une conversation politique complexe qui est encore aujourd'hui. Donc, voilà, je vous ai mis quand même une photo du président. Et l'idée derrière, donc, le concept central, donc, depuis 2007, c'est cette idée de civilisation écologique, c'est qui est le corps de la constitution chinoise, sur la base de laquelle les plans quinquennaux sont faits. Vous voyez, en 2005, il y avait donc Xi Jinping, le président, parce qu'en 2005, il avait dit cette phrase qui est devenue le motto de l'industrie pendant toute l'industrie solaire, mais éolien, enfin énormément d'industries qu'on appelle green. Il disait donc Lu Shui Qing Shan, Jiu Shui Qing Shan Ying Shan, ça veut dire l'eau verte et les montagnes vertes, dans le fond, sont des montagnes d'argent et d'or. C'est-à-dire il y a une énorme valeur dans les forêts, dans les montagnes et les rivières, mais aussi une valeur d'argent et d'or, quoi. Et donc, c'est cette idée qui a fait son chemin. Et alors après, tous les objectifs derrière, bien sûr, qui sont liés, qui sont là, pas des objectifs économiques, mais qui sont liés à la transition énergétique, la neutralité carbone de la production, etc., qui sont d'autres objectifs qui sont en lien avec ça, mais qui sont quand même un peu décorrélés, quoi. Et en fait, donc ils se retrouvent devant une situation paradoxale, puisque s'ils ajoutent des subventions, il va y avoir plus d'entreprises, donc ils ne peuvent pas subventionner ce secteur. Mais s'ils enlèvent les subventions, ils savent que ça va prendre des années avant que la surcapacité s'arrête. Donc au niveau politique, c'est très compliqué. Et donc j'empruntais ici la notion d'improvisation supervisée, que je trouve assez intéressante. C'est une chercheuse qui s'appelle Yuan Han, qui est, je vous conseille de lire si vous voulez lire quelque chose sur la Chine. C'est en anglais, mais c'est très intéressant. En fait, elle explique bien historiquement comment... le parti communiste et la gouvernance de la Chine en général, c'est une sorte de supervision d'une improvisation générale. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs dans l'économie et dans la société, et le gouvernement fait en sorte de sortir des grandes lignes et des grandes choses qui permettent d'un peu de donner une direction et de donner une cohésion, en fait, à tout ça. Mais que du coup, c'est cette idée d'improvisation supervisée qui fait que... l'idée de civilisation écologique, je pense que c'est un bon exemple. Il y a tous ces trucs qui se passent, puis eux, ils essaient d'en faire un cadre qui permet de continuer cette tendance, mais d'une manière un peu plus structurée, on va dire, politiquement et dans le jargon. Et ça marche beaucoup par slogan, comme les montagnes. Et donc aujourd'hui, il y a maintenant un mois, le nouveau plan quinquennal est sorti, parce que, il était publié déjà depuis un petit moment, mais Du coup, c'est des plans donc c'est là, vous voyez, 2026-2030, enfin, en gros. Et dedans, un des grands, il y a toute une partie du plan qui est dédiée à comment on va adresser la surcapacité industrielle. Parce que donc ça existe dans l'acier, ça existe dans d'autres industries. Et pour Pékin, c'est quelque chose c'est la première fois qu'ils reconnaissent dans le plan, même si ça fait déjà 15 ans que c'est le cas. Mais du coup, le solaire, c'est un des secteurs, c'est le deuxième secteur après l'acier qui est adressé pour comment adresser cette idée de surcapacité industrielle. Parce qu'on a beaucoup trop de production de panneaux solaires en fait en Chine. Et donc bon, il y a tout un tas de leviers, je ne vais pas détailler les détails, ça ce sera la mise en place des politiques derrière. Et une chose assez amusante, c'est que du coup, ils ont appelé cette campagne anti-involution. Et l'involution, c'est un mot, Neijuan, en chinois, c'est le mot qu'on voit ici. C'est un mot qui est né sur Internet, c'est un espèce de mème qui est né d'un buzz, qui est né de blagues en fait. L'involution, c'est l'idée, à la base c'est un concept de sciences sociales, mais c'est l'idée de se renfermer sur soi-même, quoi. Et du coup, c'est d'éviter de collapser sur soi-même, de s'effondrer sur soi-même. Et donc, dans l'internet chinois, depuis quelques années, c'est devenu depuis le Covid en fait, c'était un truc genre les gens ils disent bah autant vu la société, autant regarder le plafond et collapser sur soi-même. Et là, le mot qui était un mot internet, une blague en fait à la base, il a été carrément récupéré dans le plan quinquennal. C'est quand même une bonne performance parce que c'est assez rapide, c'est assez court. Et en même temps, ça montre bien cette idée d'improvisation, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la société et c'est réintégré politiquement dans le discours, en changeant de sens, des fois en étant complètement récupéré, etc. C'est un peu une autre conversation, mais juste pour vous montrer la logique politique aussi de gouvernance qu'il y a derrière tout ça, un peu en Chine. Et donc, en fait, je pense que l'intérêt de regarder ça de près et de comprendre ce qui se passe en Chine et ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est qu'en fait, c'est pas un phénomène... Donc le photovoltaïque, en fait, en lisant l'OCDE, etc., tous les rapports, c'est quasiment le domaine le plus subventionné au monde, en termes de facilité de crédit, en tout cas dans l'industrie, de manière industrielle, et pour la production de panneaux, et de production de cellules. Et en fait, aujourd'hui, les IRA et les Green Deal, les grands plans industriels américains et européens, en fait, c'est des énormes plans de subvention qui ont de fortes chances d'aller dans cette direction. C'est-à-dire de créer des géants industriels qui vont créer de la surcapacité industrielle sans l'avoir utilisée. Et du coup, de reprendre cette logique après avec de la consolidation et on finit avec des énormes acteurs qui trustent l'intégralité de la chaîne de production. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt à comprendre ce qui s'est passé en Chine en regardant les politiques comme elles sont faites aujourd'hui. Et puis, bien sûr, bon, alors là, Là, c'est quelque chose de plus général, mais je lisais la presse en préparant la conférence, donc avant-hier, il y a deux jours. Et là, avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et la guerre en Iran, la vente de panneaux solaires, l'export de panneaux solaires deux mois derniers, c'est des records jamais égalés dans l'histoire de la Chine, qui était déjà au niveau d'export assez incroyable, mais donc c'est plus de 100%. Et c'est des pays comme une grande partie de la corne de l'Afrique de l'Est, Nigeria, plein de pays d'Amérique du Sud, en fait tout le monde s'équipe, donc il y a une espèce de boom du solaire. Et en même temps, ce qui se passe, c'est qu'avec le changement justement de plan quinquennal et les réformes de l'État, avant il y avait un rabais de TVA sur les panneaux, donc c'est pour ça que les prix étaient ce qu'on voit ici, parce qu'en fait ils ne sont pas les prix, ils ne sont pas les prix véritables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine a décidé, en fait... Oui, oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Hein. Je sais pas. Mon rôle, c'est vraiment informatif, hein, ce que je vous dis, moi. Hein. Mais après, j'ai pas de solution. Moi, je suis pas. Comment ? Moi, à la base, je suis chercheur en sciences sociales. Je suis pas du tout dans l'énergie photovoltaïque. J'ai des amis qui ont organisé la conférence. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de regarder cette industrie et de nous en parler ? Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je vous essaie de vous expliquer. Moi, j'ai juste une expérience de 15 ans. Du monde industriel chinois, donc j'essaie de vous raconter ce qui s'est passé en Chine, parce que tout ce que je vois, c'est l'installation des panneaux solaires, qui est une chose très intéressante, et la communauté autour de ces panneaux, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Comme j'ai dit, la seule connaissance que j'ai, c'est que j'ai acheté un panneau, je l'ai mis dans le jardin de mon père, et j'ai mis une batterie, et j'ai regardé, tout était absolument chinois. Donc je me suis dit, bah quand même. Et donc voilà, là, mais après, sur les solutions, et que c'est pas une fatalité, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais à la fois, moi, là, c'est les connaissances que j'ai, et j'essaie de vous les présenter, ça s'arrête là. Hein. Mais ça s'arrête là. Non, je vais vous montrer. En fait, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que, bien sûr, le panneau, enfin, toutes ces réactions industrielles qu'on a aujourd'hui sur l'installation des panneaux, en fait, le temps long des panneaux, donc un panneau, la durée de vie, statistiquement, c'est 27 ans. Donc, chaque panneau qui est posé aujourd'hui, il crée une dette de 25 ans où il sera remplacé, quoi, s'il n'est pas cassé avant. Et donc, l'idée, c'est que pour maintenir juste un parc qui existe, eh ben, il y a une production continue qui va devoir continuer. En tout cas, si c'est l'idée d'installer des panneaux solaires, moi, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'installer des panneaux solaires, en fait. Moi, ce que je vois, c'est voilà la façon dont c'est produit, voilà d'où ça vient, voilà comment c'est fait. Ça, c'est, je veux dire, tout ce qui est là-dedans, je pense que moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'est démontrable et je peux le prouver. Après, le reste, je ne sais pas du tout comment c'est censé être. Et donc voilà, quand on voit sur le temps long, on sait que, par exemple, si, vu la tendance, s'il y a une transition énergétique qui se fait sur la base du photovoltaïque, d'ici 50 ans, ce sera la moitié de la production d'argent, la moitié de la production de phosphore, la moitié de la production, je l'ai noté sur la slide d'après que je vais vous montrer, de cuivre et d'aluminium, qui sera dédié au photovoltaïque. Donc, bien sûr, il y a encore d'autres choses qu'on doit produire dans le monde, donc voilà, et ça pose des questions. Puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les panneaux, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, des entreprises qui, sur les subsides allemands des années 2000, cette année ou dans 5 ans, ils sont périmés, leur durée de vie va arriver, ils vont arriver au bout de leur vie, on va dire. Et du coup, il n'y a pas de circuit de recyclage, il n'y a pas de circuit de réutilisation, il n'y a pas de circuit de destruction. Aujourd'hui, il y en a très très peu, c'est extrêmement marginal. Et je pense, à mon avis, que vu la capacité industrielle qui existe, la question centrale, c'est comment on va résoudre la dette matérielle que créent les panneaux solaires, puisque en fait, au-delà de la dette énergétique, la question matérielle de comment est fabriqué le panneau, elle est centrale et je pense qu'elle va s'imposer assez rapidement, parce que ça va être la même question de savoir le fabriquer et de savoir le défabriquer. Voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, c'est un peu moi, voilà, les trois choses que je gardais en tête pour finir là-dessus, c'était chaque panneau posé aujourd'hui, il crée une dette qui va se matérialiser dans 25 ans. Ça, c'est certain, c'est une certitude. Il n'y a pas d'autre moyen de le voir. Une dette matérielle, c'est-à-dire que ben, il va arrêter de marcher. Et sur 25 ans, il va y avoir plein de problèmes. La maintenance des systèmes... Moi, je suis ingénieur aussi. Hein. La maintenance des systèmes, c'est la question centrale. L'innovation, poser des trucs, c'est facile, entre guillemets. Et maintenir un système sur 25-50 ans, c'est extrêmement difficile. Et l'industrie, elle est aujourd'hui presque entièrement en Chine. C'est pas d'un plan central, c'est même pas, c'est cette espèce d'improvisation dirigée dont je parlais, et que même Pékin en fait a pas le contrôle dessus. C'est une chose beaucoup plus globale et complexe que juste un système local avec un président qui dit oui on fait ci, on fait ça. Et enfin, je pense, c'est mon avis, mais parce que je suis biaisé, mais essayer de comprendre ce qui se passe en Chine dans les termes chinois et avec et ce qui est très peu fait à mon avis, parce que moi c'est mon avis encore une fois. Je pense que c'est important parce que ça nous donne une autre perception de ce qui se passe dans le monde et ce qu'on essaye de faire. Et que aussi, il y a des leçons à apprendre, il y a des leçons à tirer, il y a des choses à comprendre. Et voilà. Et enfin, moi, je me suis dit, quand j'ai posé le panneau, je me suis dit, tiens, je rentre dans un nouveau système technologique mondial compliqué. Voilà, c'est la façon dont j'ai pensé. Voilà. Sur ces paroles, écoutez, merci. À toutes les questions, bien sûr.
Alors on a un peu d'avance sur le programme, ce qui est extrêmement rare, donc on peut justement prendre quelques questions. Et étant donné qu'il y a eu des réactions, donc est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle qu'on peut prendre?
Les panneaux photovoltaïques, pour moi, en fait, c'est pas une bonne solution parce que bon, même sans parler des dérives chinoises là, d'installer des quantités de panneaux sur des surfaces énormes, en fait, comme tu as commencé à le dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces panneaux une fois qu'ils sont installés? Les circuits de recyclage, démonter les panneaux, les transporter en camion jusqu'à des centres de recyclage, enfin, au bout d'un moment, c'est absurde. Donc, voilà.
Oui, bah moi, je suis...
Et donc, même si c'est fait de manière citoyenne, que c'est, voilà, que c'est accepté par un collectif, bah, ça ne résout pas tout. Ça, c'est, voilà, on peut faire mieux que ça.
Moi, je suis d'accord. Donc, comme je disais, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question photovoltaïque, je suis spécialiste de l'industrie en Chine. Donc, par contre, ce serait, je pense, absolument passionnant de faire une étude ou de faire une recherche un peu comme ça sur les stratégies de recyclage qui ont été développées en Chine, notamment, et les stratégies de réutilisation. Ok, pas de problème.
Oui, moi je veux bien entendre.
Non, je suis d'accord. Hein.
Je veux bien entendre que c'est pas la solution, mais je demande à la personne qu'est-ce qu'elle propose. Si tu proposes rien, si tu te contentes de critiquer, de contester, c'est pas constructif, on est bien d'accord?
Eh bien, je me pose la question de savoir si est-ce qu'on maintient les collèges comme ils sont. En fait, est-ce que ce collège-là que vous avez recouvert de panneaux photovoltaïques, est-ce que... En fait, on aurait pu faire en sorte d'éviter que les élèves ils passent autant de temps dans ce bâtiment, faire autre chose de ce bâtiment. Voilà,
Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Ouais.
D'accord. Bonjour à tous.
Bonjour.
D'abord, merci pour votre présentation. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à poser. Je reviens sur l'intervention du monsieur pour lui dire qu'en fait, ça reste une bonne solution parce que utiliser les panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, ça permet de réduire la consommation des énergies fossiles, dont de facto le bilan est toujours positif. Donc il n'y a pas vraiment de je ne sais pas comment tu peux dire. L'impact est toujours positif. Maintenant, la question que le chercheur a soulevée, qu'est-ce qu'on fait des panneaux lorsqu'ils ont atteint leur limite de production, lorsqu'ils sont en fin de vie? C'est là le challenge, c'est là où on doit concentrer notre énergie, notre réflexion à trouver des solutions. Parce qu'en soi, trouver des alternatives aux énergies fossiles sont toujours positifs. C'est toujours quelque chose qui a une valeur ajoutée, en fait. Donc maintenant, c'est à nous de trouver des solutions pour réduire encore l'impact que les panneaux photovoltaïques peuvent avoir sur l'environnement. Donc, le travail que nous, on doit faire, c'est comment est-ce qu'on traite ces panneaux photovoltaïques lorsqu'ils sont en fin de vie. Donc, je pense que c'est un plan qu'on doit beaucoup investiguer dessus.
Et si je peux me permettre, peut-être un truc qui n'est peut-être pas assez insisté dans la présentation, parce que ce n'était pas le but non plus, mais l'autre question, c'est... Qu'est-ce qu'on fait si la Chine ne nous donne plus de panneaux voltaïques, de panneaux photovoltaïques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si aujourd'hui, je sais pas, là, il y a le détroit d'Ormuz, je sais pas, il y a la route de la soie, bon, la Chine, je ne pense pas qu'ils arrêteront de vendre à l'Europe, mais hypothétiquement, la question, c'est comment cette dépendance industrielle, elle est majeure, enfin, et elle n'est pas que pour la France. Hein.
Attendez, si on peut parler dans le micro, parce que c'est un débat et on lève la main
sinon
pour réagir.
Sinon, on peut aussi, moi je peux, on peut aussi.
Et aussi, on aura aussi le temps pour continuer
s'il
à discuter.
S'il y a des questions, je vais les prendre. Sinon, après, on peut aussi aller finir la conversation. Oui, pardon.
Oui. Alors, vas-y, je te donne la parole dans le micro pour que tout le monde t'entende.
Voilà, bonjour. Je suis avec le collectif, la coopérative Inercitif sur Paris. Nous, on a une exigence au niveau des coopérateurs de prendre que des panneaux solaires de Chine. Pas de Chine. Du coup, merci. Non. Sur Paris, sur l'Europe. Voilà. Donc, en France, bon.
Juste pour une chose,
c'est un peu
par
difficile,
exemple,
mais il y en a en Europe.
Par rapport aux marques européennes. Moi, voilà. Par exemple, le panneau
en
que j'ai acheté.
En tout cas, sur les panneaux, on est exigeant, on maintient sur obtenir des panneaux que en Europe, d'Europe.
Voilà. D'accord. Bon, on va.
Merci. Et c'est le cas d'autres collectifs citoyens, mais je ne vais pas donner la parole à tout le monde, mais merci. Peut-être que Nicolas, je te rends...
Oui, non, merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on touche au cœur en fait, des débats auxquels amène ce type de rencontre. Et c'est l'objet en fait de cet événement et des stands et des différentes interactions qui sont là. Donc en fait, c'est un bon démarrage justement de controverses et de débats qu'on va continuer pendant la journée. Merci Clément et bah voilà, vous pourrez continuer informellement avec lui. Merci.
Donc pour une nouvelle histoire solaire, on va redemander à Anna qui vient de prendre la parole, à Fatoumata et à Catherine de Enercitif de venir sur scène.